Le 13-14, Hélène Roussel.
Bonjour et bienvenue. Le vaccin bientôt obligatoire pour tous les soignants. Le Delta se répand, le gouvernement craint la quatrième vague et envisage les grands moyens, infirmiers, aides-soignants, qu'à moitié vaccinés, mais marre d'être pointés du doigt.
Ils ont besoin d'avoir cette liberté de choix, à quel moment ils voudront être vaccinés et s'ils veulent l'être.
Le vaccin obligatoire, le débat fracture la société. Est-ce vraiment la seule solution? Réponse d'Elisabeth Bouvet, infectiologue, membre de la Haute Autorité de Santé, en direct avec nous dans quelques minutes. Un peu d'air, un peu de légèreté, mais premier départ en vacances perturbé à l'aéroport de Roissy ce matin, des passagers bloqués à l'embarquement par des grévistes. L'été s'annonce socialement agité. C'est une scène glaçante qui fait le tour des réseaux.
Ils tirent. Les soi-disant gardes-côtes libyens ne tiraient pas sur les gens.
Des gardes-côtes libyens qui tirent tout près d'une embarcation de migrants. Reportage à suivre. Dans l'actualité encore, les Américains qui quittent la base de Bagram en Afghanistan, tout un symbole. La Belgique taillée pour le trophée face à l'Italie décomplexée, quart de finale de l'Euro de foot ce soir. Septième étape la plus longue de tout le Tour de France aujourd'hui. Vous retrouverez aussi dans la deuxième demi-heure la chanson de Frédéric Pommier, notre feuilleton et notre invitée à 13h30. Elle est vice-championne olympique du lancer de disque, 35 titres de championne de France au compteur. Mélina Robert-Michon part pour ses 6e JO dans 3 semaines. Avec autant d'appétit, malgré la pandémie, on lui posera la question. On attend aussi les vôtres, chers auditeurs. Le standard est ouvert. 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Vous avez le menu du 13-14. Bon appétit, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Décoller, partir en vacances, l'esprit léger pour ses passagers, c'est raté. Scène rarissime ce matin au terminal 2E de Roissy. Les voici bloqués à l'embarquement par des manifestants encadrés par les forces de l'ordre. Le mouvement de grève des agents d'aéroport de Paris contre des baisses de salaire prend de l'ampleur et de la place. Laurine Benjebrila, vous êtes à Roissy. Les voyageurs étaient prévenus, hein, ils risquaient d'y avoir des retards sur les vols. De là à ne pas pouvoir embarquer, on imagine bien la tension.
Ils sont près de 700 devant les postes de la police aux frontières du terminal 2E. Des personnels au sol qui tapent sur des tambours, donnent des coups de sifflet. Leurs représentants syndicaux viennent de sortir d'une première table de négociation avec la direction. Et ils ont obtenu quelques avancées, selon Rachid Edaïdj, secrétaire général de la CFE-CGC.
Ils s'engagent à ce qu'il n'y ait pas de baisse de rémunération au-delà de 5%. Qu'au 1er janvier 2024, si, quelle que soit la situation du trafic, les salariés retrouveront, sur la base de leur salaire 2019, on peut estimer que c'est un grand pas qui est franchi.
Des avancées saluées par plusieurs grévistes comme Régis et Jérôme, tous deux salariés chez ADP depuis 20 ans. Ils envisagent donc d'arrêter leur participation au mouvement social. La direction leur donne rendez-vous à 14h pour de nouvelles négociations. En attendant, le blocage est maintenu, ce qui occasionne jusqu'à une heure de retard pour certains vols.
Laurine Benjebrila à Roissy pour France Inter. Plus contagieux, plus virulent, le Delta se propage à la faveur d'une campagne vaccinale qui marque le pas et d'un relâchement estival. Alors pour contrer le variant et la quatrième vague de Covid qui se profile, sans doute pour l'automne, le Premier ministre Jean Castex a écrit une lettre ouverte au président des groupes parlementaires, un projet de loi sur la table. Simon Le Baron, bonjour.
Bonjour.
S'il le faut, le gouvernement est prêt à rendre la vaccination obligatoire pour les soignants dans les EHPAD comme dans les hôpitaux.
Et cela se précise très clairement puisque cette loi en préparation pourrait être examinée rapidement au Parlement, probablement dès le mois de septembre. Gros coup de pression donc du gouvernement sur les soignants. Et la question est également de savoir si cette obligation doit être étendue à d'autres professions en contact avec les publics fragiles, les aides à domicile, les agents d'entretien des maisons de retraite par exemple. Jean Castex attend sur ce sujet l'avis des élus.
Alors le gouvernement cherche aussi d'autres solutions pour relancer de façon plus globale la vaccination.
D'abord, faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous les Français? Ce n'est pas du tout le projet du gouvernement, nous répondons ce midi dans l'entourage du Premier ministre. En tout cas, pas à ce stade, mais on voit bien que le débat monte dans le monde scientifique et politique. Ensuite, comment inciter ceux qui hésitent encore à se faire vacciner? Eh bien, plusieurs outils sont envisagés. L'extension du pass sanitaire au restaurant, au cinéma par exemple, l'exécutif y réfléchit. Le déremboursement ensuite des tests dits de confort. Là, le sujet est plus délicat car cela reviendrait à créer une inégalité entre ceux qui peuvent se payer ces tests et les autres. Et puis, l'isolement, il pourrait devenir obligatoire. 1 000 euros d'amende Irlande, par exemple, comme pour les voyageurs venus de pays à risque. C'est là aussi une piste, isolement qui, dans le même temps, pourrait être supprimé pour les cas contacts vaccinés. En fait, l'idée du gouvernement, c'est clairement de faire comprendre que la vie est plus facile quand on est passé par la case vaccination.
Et on sait que le Premier ministre va là-dessus consulter les élus locaux. C'est un débat, en fait, qui devient politique.
Éminemment politique. C'est pour ça que Jean Castex, par cette consultation, essaie d'obtenir le consensus le plus large possible sur les mesures à prendre. En tout cas, au sein du gouvernement, on pense qu'il n'y aura pas d'opposition forte sur le principe de la vaccination obligatoire des soignants. Tout juste quelques réserves, comme celle de l'insoumis Alexis Corbière ce matin sur France Info.
Moi, je suis agacé à force que ceux que nous avons applaudis aujourd'hui sont la cible d'attaques que je considère comme injustes, comme si, en quelque sorte, c'était des têtes folles qui n'étaient pas responsables.
Emmanuel Macron et l'exécutif, en tout cas, avec ces sujets, savent qu'ils marchent sur des œufs, eux qui ont souvent été accusés depuis le début du quinquennat de dérives liberticides.
Simon Le Baron, merci. Un débat politique qui traverse, voire qui divise toute la société. Il n'y a qu'à lire ces tags anti-vax inscrits cette nuit sur un centre de vaccination à Nice. La ville et la métropole déposent plainte. Il n'y a qu'à écouter aussi les soignants. Beaucoup vivent très mal cette mise en cause de leur profession. Cécilia Arbona.
Sur son compte Twitter, le syndicat infirmier SNPI annonce que 91% des soignants sont vaccinés contre le Covid en s'appuyant sur des chiffres de Santé publique France. Pourquoi faire autant de bruit pour des professionnels de santé minoritaires, s'interroge le porte-parole Thierry Amourou.
Les soignants ont été les artisans de la vaccination. Je trouve ça tellement injuste de se faire montrer du doigt comme ça.
Si les professions libérales comme les médecins, les infirmières ou les kinés ont adhéré au vaccin, la piqûre rencontre des obstacles en établissement de santé ou en maison de retraite.
On sent quand même bien que l'encadrement a pour mission quand même de nous demander, de nous inciter quand même à être vaccinés.
Aide-soignante au grand hôpital de l'Est francilien, Marie-Christine Garneau a été vaccinée. Pourtant, cette déléguée syndicale UFAS comprend les collègues qui ont dit non.
Ils ont besoin d'avoir cette liberté de choix. À quel moment ils voudront être vaccinés et s'ils veulent l'être. Si on est contraint, ça ne le fera pas forcément avec plaisir, mais ça le fera. Parce que un soignant est avant tout un fonctionnaire et le fonctionnaire, il sait qu'il doit obéir.
Le refus du vaccin serait pour certains agents hospitaliers une nouvelle forme d'expression et même de lutte pour contester des choix économiques de la direction, des décisions prises bien avant le début de la pandémie.
9 médecins sur 10 vaccinés à l'hôpital, 73% chez les libéraux, en revanche moins de la moitié dans les EHPAD, à peine plus chez les aides-soignants ou les infirmiers dans les hôpitaux. La vaccination doit-elle être obligatoire chez les soignants? On en parle à présent avec notre invitée Elisabeth Bouvet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue, membre de la Haute Autorité de Santé. Vous venez d'entendre, comme nous, hein, ces infirmiers, ces aides-soignants, marre d'être pointés du doigt. Vous leur dites quoi, vous, ce matin?
Moi, je leur dis que c'est pas les pointés du doigt. C'est, on a fait un bilan, on l'a dit d'ailleurs depuis le début de la campagne, hein, à la HAS, on avait rendu des recommandations en disant qu'on n'était pas au départ favorable à l'obligation parce qu'on pensait que chacun pouvait justement avoir le loisir de décider. Il fallait connaître mieux les vaccins, il fallait qu'on ait suffisamment de vaccins. Il fallait savoir si les vaccins avaient réellement un impact sur la transmission du virus. Et donc effectivement, il y a eu un temps assez important pour que ce vaccin se développe chez les soignants. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour qu'ils soient vaccinés. Ce qui devient problématique maintenant, c'est qu'effectivement, il y a une proportion qui n'est pas énorme, mais qui est relativement importante et qui est très variable, hein, selon les lieux, selon les établissements, de personnes qui ne sont pas vaccinées, qui donc continuent, si vous voulez, à pouvoir transmettre le virus dans les établissements de santé. Je pense que parmi eux, il y a beaucoup de personnes qui avaient considéré qu'ils attendaient, qu'ils voulaient savoir effectivement comment ça se passait, la vaccination, qu'ils voulaient savoir aussi si on n'était pas, s'il y avait réellement besoin d'être vacciné. Ce qu'on leur dit maintenant, c'est...
attention. Il faut le faire parce que sinon c'est obligatoire. Il faut le rendre obligatoire.
Ben, voilà, nous ce qu'on dit, c'est qu'il y a des raisons pour élargir vraiment la vaccination chez les soignants. Pourquoi? Parce qu'on est certain que avec les variants qui sont plus transmissibles, il va y avoir une nouvelle vague de virus d'infection et donc un risque important à nouveau d'hospitalisation et de décès. Et si on ne voit pas augmenter la couverture vaccinale chez justement les personnes qui sont en contact des patients, eh bien, on verra cette vague, elle aura des conséquences beaucoup plus importantes. Donc, c'est maintenant, c'est le moment, quoi. Je veux dire, il faut attendre.
Il y a une question, Elisabeth Bouvet, ce variant Delta qui s'étend dans le pays champion de la vaccination, je pense à Israël, retour des masques dans les lieux publics fermés, un chiffre notamment qu'on retient ce matin, 40% des contaminations en Israël touchent des personnes qui sont doublement vaccinées. Ça veut dire que le vaccin ne sert à rien?
Non, pas du tout. C'est tout à fait normal. Plus vous allez avoir de gens vaccinés, plus la proportion de gens qui font l'infection et qui vont être vaccinés, si vous voulez. C'est-à-dire, s'il y avait 100% de gens vaccinés, ben, il y aurait 100% des gens qui font l'infection qui seront vaccinés. En pourcentage, c'est tout à fait normal que, comme la population augmente son taux de vaccination, la proportion de vaccinés parmi les personnes qui font le Covid augmente. Ça, c'est tout à fait normal. Avec toutes les infections, c'est pareil.
Mais ça veut dire qu'on peut le développer gravement? Ce sont des cas graves? On peut être doublement vacciné?
Non, attendez, alors, j'ai pas tout à fait fini mon développement. C'est d'abord, premièrement, c'est logique que la proportion augmente. Deuxièmement, les personnes qui sont infectées et qui sont vaccinées ne font pas de forme grave. Et ça, maintenant, on est tout à fait, on a toutes les données qui nous permettent de vérifier que l'infection chez les gens vaccinés, elle est moins fréquente, mais elle est possible et elle n'est pas grave. Donc, en dehors de quelques cas, mais si vous voulez, ça réduit considérablement le risque d'hospitalisation et le risque de décès.
On parle d'une troisième dose à présent pour les personnes les plus vulnérables, les plus âgées pour septembre, peut-être. Est-ce qu'il faut l'étaler et potentiellement l'étaler à toute la population? Est-ce qu'on doit se préparer à une troisième dose?
Pour l'instant, la décision n'est pas du tout prise. Il nous faut d'autres éléments, notamment celles qui concernent la durée de protection conférée par les vaccins, qui semble finalement assez longue. Donc, on n'a pas suffisamment d'éléments actuellement pour dire, en tout cas, je pense pas que ce sera septembre. Pour l'instant, les données que nous avons et sur l'efficacité des vaccins, sur la durée de la protection, sur l'épidémiologie, laissent à penser que l'essentiel, c'est d'avoir ces deux doses de vaccins. Mais pas forcément trois, et la troisième, c'est à l'étude, mais pour l'instant, il n'y a pas du tout de données qui nous permettent de...
On verra ça plus tard, donc. Voilà. Elisabeth Bouvet, infectiologue, membre de la Haute Autorité de Santé, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Inter aujourd'hui. Le variant Delta s'étend aussi au Portugal, qui revient au couvre-feu à partir de ce soir, 23h, dans 45 communes, dont Lisbonne et Porto. Alerte encore en Russie, pays hôte de l'euro, un nombre de morts encore jamais atteint, 679 sur ces dernières 24 heures. Malgré les confinements, les indicateurs économiques passent au vert. L'INSEE anticipe une croissance de 6% l'an prochain, soit son niveau d'avant-crise. Et Bercy revoit sa copie à quelques mois de la présidentielle. Plus question de serrer les cordons de la bourse. Au contraire, le ministère prévoit de laisser filer la dépense plus que prévu en 2022. Ça repart aussi le tourisme, le pari prisé, le pari désiré. Voici le retour des Américains dans la capitale. Les États-Unis classés zone verte, il suffit donc d'être vacciné ou d'avoir un PCR négatif pour entrer en France. On flâne sur les quatre scènes Made in USA avec Olivia Cohen.
Face au jardin des Tuileries, Angie est assise en terrasse. Elle est californienne et vaccinée et son voyage s'est passé sans aucun souci.
Au départ, à l'aéroport, j'ai dû montrer mon certificat de vaccination et un test négatif et j'ai fait pareil à l'arrivée en France. C'était parfaitement organisé. Je suis arrivée chez ma fille et j'ai dit « c'était la meilleure traversée de ma vie, ça n'a jamais été aussi simple ».
Angie a prévu de rester un mois et demi.
Je suis juste ici pour voir ma fille, donc mon objectif c'est de boire des cafés, faire des choses avec elle et profiter de Paris, doucement.
Un peu plus loin, en goguette, William, venu de la Nouvelle-Orléans, détendu, mais tout de même, hein, même si ce n'est plus obligatoire de porter le masque en extérieur, il préfère le garder.
Ça me paraît plus judicieux de prendre trop de précautions que pas assez.
À deux pas, chez Edouard, une chocolaterie haut de gamme, Océane, la vendeuse, le confirme, les gourmets américains sont de retour.
Par groupe, on leur fait des dégustations, donc ils sont très contents de déguster le chocolat et d'être là, donc ça fait plaisir.
Dans les musées aussi, ils sont de retour, notamment à l'hôtel de la Marine, fraîchement inauguré, mais Jocelyn Bourali, l'administrateur, reste prudent.
Ça reste timide, voilà, il y a un frémissement, j'espère que ça va s'intensifier.
Seule inquiétude, le variant Delta, plus contagieux, qui continue de progresser.
Voilà, rue de Rivoli, près de la place de la Concorde, balade offerte par Olivia Cohen. Et pour retrouver tous les chiffres Covid de Santé publique France ou encore cette lettre ouverte de Jean Castex sur la possible vaccination obligatoire, rendez-vous sur franceinter.fr. Les images font le tour des réseaux et des télévisions italiennes aussi glaçantes qu'impressionnantes. Un navire des gardes-côtes libyens a tiré à proximité d'une petite embarcation de migrants qui venait de quitter la côte pour rejoindre l'île de Lampedusa, Rome, Bruce de Gelsin.
Les images et le son sont pris à bord du Seabird, l'avion de reconnaissance de l'ONG allemande Sea-Watch. Deux humanitaires dans l'avion commentent la scène glaçante qu'ils ont sous les yeux. Une grosse vedette des gardes-côtes libyens s'en prend à une embarcation de fortune avec 63 personnes à bord.
Ils tirent.
Ils tirent, oui.
Les soi-disant gardes-côtes libyens, s'il vous plaît, gardez vos distances.
Shoot at the people.
Ne tirez pas sur les gens.
Ils tirent encore.
Les soi-disant gardes-côtes libyens, arrêtez de tirer dans l'eau.
À ce moment-là, on voit la vedette des gardes-côtes tenter d'éperonner la barque des migrants. Elle passe à moins d'un mètre.
J'ai vraiment peur quand ils se rapprochent comme ça.
Les soi-disant gardes-côtes libyens, ce que vous faites est très dangereux. Stop!
Des objets sont jetés sur les migrants qui seront poursuivis pendant une heure et demie. Mais le naufrage est finalement évité. La petite embarcation va même réussir à rejoindre les côtes de Lampedusa. Une partie de l'Italie s'indigne. Selon Sinistra Italiana, la gauche italienne, le patrouilleur a été donné par l'Italie qui entretient et finance en partie les gardes-côtes libyens. Rome, Bruce de Gelsin, France Inter.
Le verrou de Kaboul, la base aérienne de Bagram en Afghanistan, tout un symbole après 20 ans de guerre. Les troupes américaines ont rendu cette base à l'armée afghane ce matin. Les talibans se réjouissent, leur réaction a été immédiate. Valérie Krova, que représente cette base? En quoi le retrait américain de Bagram en particulier est-il historique?
Alors d'abord, Bagram, c'était une petite ville à l'américaine où on trouvait des cafés, des supermarchés, même des cinémas pour tous les soldats américains qui étaient stationnés en Afghanistan. Il faut savoir qu'au plus fort des opérations contre les talibans, Bagram a abrité jusqu'à 30 000 soldats et contractants américains ainsi que les forces de l'OTAN. Donc elle symbolisait, cette base de Bagram, l'intervention occidentale contre laquelle les talibans se battent depuis toujours. C'était aussi une prison où plusieurs centaines de suspects ont été détenus sans jugement, d'où son surnom de Guantanamo d'Orient, ce qui a alimenté une rancœur tenace contre les Américains. La fermeture de Bagram préfigure le retrait définitif des derniers soldats américains qui doit être finalisé dans les prochaines semaines, avant la date symbolique du 11 septembre voulue par Joe Biden. Un retrait qui peut être vu comme un abandon des Occidentaux face aux talibans qui gagnent chaque jour du terrain. Ils contrôlent 100 districts sur les 400 que compte l'Afghanistan. Ils encerclent plusieurs capitales régionales et ne sont plus qu'à une cinquantaine de kilomètres de Kaboul. La question n'est plus de savoir s'ils vont reprendre la capitale, mais quand. Et puis s'ils reprennent le pouvoir, comment le pays sera-t-il gouverné? Qui va assurer la sécurité des diplomates occidentaux et des ONG qui travaillent sur place, au plus près de la population afghane? Et bien sûr, que vont devenir les femmes afghanes qui ont acquis des droits depuis le départ des talibans en 2001? L'avenir est, vous le voyez, plus que sombre.
Une nouvelle page d'histoire donc aussi pour l'Afghanistan. Valérie Krova, plus aucun GI, plus aucun membre de l'OTAN sur ce qui était l'une de leurs plus grandes bases militaires, la base de Bagram en Afghanistan. Écrasé par des températures à près de 50 degrés, à présent brûlé par des incendies qui se multiplient, l'Ouest canadien suffoque et souffre. Des centaines d'habitants asphyxiés sous le dôme de chaleur ont dû fuir les flammes ces dernières heures. Du village de Lytton à 200 km de Vancouver, Claude Guibal, c'est simple, il ne reste quasiment plus rien.
Oui, tout a commencé par une fumée blanche. Une poignée d'heures plus tard, à peine, il ne restait plus rien que des cendres. Le feu a détruit à 90% le petit village, sous les yeux impuissants des habitants évacués dans l'urgence. Le Canada entier est sous le choc. C'est à Lytton, justement, que le pic de chaleur avait été enregistré il y a 3 jours, 49,6 degrés. Une fois encore, la nuit n'a apporté aucun répit. Le jour se lève sur le Canada et avec lui, une anxiété croissante. En 24 heures, 62 nouveaux incendies. À chaque fois, de nouveaux ordres d'évacuation. Les autorités de Colombie-Britannique multiplient les alertes. De nouveaux records de chaleur sont attendus aujourd'hui et demain. La vague caniculaire qui se déplace vers l'est menace désormais l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le nord de l'Ontario. Et difficile de chiffrer avec précision le nombre de victimes, mais alors que plusieurs personnes personnes sont portées disparues dans l'incendie de Lytton. Des localités du Canada, du nord des États-Unis aussi, soulignent une augmentation du nombre de décès soudains liés à la chaleur intense.
Claude Guibal de la rédaction internationale de Radio France. Le soleil meurtrier d'un côté, les pluies, les orages, les vagues submersion de l'autre, la Martinique en alerte orange. La tempête tropicale Elsa progresse rapidement et se renforce en direction des Petites Antilles. Les psychiatres à la barre. Pour le 9e jour d'audience au procès de l'affaire Troadec devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, les experts tentent depuis ce matin d'éclairer la personnalité d'Hubert Caouissin, accusé du meurtre de son beau-frère, de sa belle-sœur et de leurs deux enfants. Un grand expert, le docteur Zaghouri, a expliqué ce matin le délire paranoïaque dans lequel était enfermé le couple Hubert Caouissin et Lydie Troadec. Margot Steve à Nantes pour France Inter.
Oui, c'est même un cas d'école de délire paranoïaque. C'est même rare, explique le docteur Zaghouri, d'en avoir une illustration aussi complète. Ce délire qui se construit petit à petit dans l'esprit d'Hubert Caouissin et qui va trouver, dit le psychiatre, son apogée, son eureka psychotique avec l'histoire des lingots d'or. À partir de là, chaque petit détail devient une preuve supplémentaire qui vient nourrir la conviction absolue partagée par Hubert Caouissin et Lydie Troadec. Ils ont été spoliés par la famille, leur fils et eux-mêmes sont en danger de mort. Le récit d'Hubert Caouissin fourmille, explique le psychiatre, de ses interprétation délirante. Pascal met un chat dans les bras de Lydie, c'est parce qu'elle n'est pas immunisée contre la toxoplasmose. Le portail de leur maison est fermé, c'est la preuve qu'il cache quelque chose. Quand il va à Orvault en février 2017, Hubert Caouissin est donc persuadé, explique le psychiatre, d'être en état de légitime défense. C'est la conviction d'être en danger qui le pousse à passer à l'acte. Une paranoïa qui n'a jamais quitté Hubert Caouissin. Quand il l'a revu en avril dernier, juste avant le procès, le psychiatre a constaté que le délire était toujours présent. Il était même, dit-il, encore plus puissant qu'avant.
Margot Steve à Nantes sur ce procès Troadec qui doit durer jusqu'au 9 juillet. Jour J pour les patrons de région. Les conseillers régionaux désignent aujourd'hui leur présidente et président 5 jours après le scrutin. Zéro suspense. Sauf en Bretagne où le socialiste Loïc Chesnais-Girard l'a emporté, certes, mais avec une majorité relative. On saura s'il passe tout à l'heure, en début d'après-midi. Une petite révolution qui va concerner bon nombre d'entre vous. Que vous soyez vendeur ou locataire d'une maison ou d'un appartement, le diagnostic de performance énergétique, le DPE dans le jargon, obligatoire, c'est un diagnostic qui dit comment votre logement est isolé, combien il consomme, combien il émet de CO2. Eh bien, la notation est chamboulée en ce début juillet, les règles ont changé avec de lourdes conséquences pour certains. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Il y aura des gagnants, des perdants, entre par exemple ceux qui se chauffent à l'électricité ou ceux qui se chauffent au gaz.
Oui, et c'est la fin du flou artistique, pour ainsi dire, sur ces diagnostics énergétiques. Jusqu'ici, basé essentiellement sur la consommation du précédent propriétaire ou locataire, ce diagnostic, nouvelle formule, va clairement bénéficier à ceux qui se chauffent tout d'abord à l'électricité. 600 000 logements quitteront le bas du classement, tandis que 800 000 logements chauffés au fioul et dont la toiture est mal isolée verront leur notation énergétique dégringoler au vu de leur bilan carbone.
Et conséquence, Laurent, pour les plus mal notés.
Les logements considérés comme des passoires thermiques avec la note F ou G sont clairement dans le collimateur du gouvernement, obligation de travaux pour les bailleurs dès 2023, interdiction de louer des passoires thermiques en 2028 pour les bailleurs et pourquoi pas dès 2025 pour l'ensemble des logements français tout en bas du classement. La date d'atterrissage pour interdire la location des passoires thermiques est actuellement en débat au Parlement avec la loi Climat et Résilience. Le diagnostic énergétique n'est donc plus à prendre à la légère quand on achète ou lorsqu'on vend son logement. Ce diagnostic devient au passage un droit opposable, avec donc la possibilité d'attaquer en justice un vendeur ou un propriétaire et d'obtenir le paiement des travaux en cas de diagnostic non conforme à la véritable performance énergétique du logement.
Laurent Kramer, on notera au passage la fin de l'isolation des combles à 1 euro. Trop de fraude, dit le gouvernement. Il monte, il descend et file comme le vent. C'est le Tour de France, bien sûr. Van der Poel toujours en jaune. Pour combien de temps? L'étape du jour, la 7e et la plus longue de ce tour. Douloureuse, accidentée. 250 km entre Vierzon et Le Creusot. Presque 3000 mètres de dénivelé à travers le Morvan. Nicolas Perronnet, vous êtes sur la moto Radio France. Les coureurs roulent depuis une bonne heure et demie maintenant. 2 heures presque. Hein, et le maillot jaune dans l'échappée?
Oui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mathieu Van Der Poel, qui est un vrai attaquant, ne s'en est pas privé, même si ça a été compliqué de prendre cette échappée. Échappée royale à 29 coureurs, avec donc le maillot jaune, mais aussi des clients, hein, au général. Wout Van Aert, Casper Asgreen, Vincenzo Nibali. Presque 5 minutes d'avance désormais sur le peloton. On le retrouve à la Philippe, Pogacar. C'est donc une étape qui pourrait peser, hein, sur le classement général avant les Alpes ce week-end, car le profil convient parfaitement à ces hommes de tête, avec notamment 5 difficultés à venir dans les 100 derniers kilomètres. Il en reste 140 jusqu'au Creusot.
Ouais, certains pourraient en profiter. Un air de classique un peu sur ce Tour de France, Nicolas.
Oui, clairement, avec cette partie finale justement dans le Morvan, qui ressemble vraiment à ce qu'on trouve dans les classiques ardennaises, hein, finalement, et notamment le signal du Chon. Alors c'est pas très connu, mais ce sera certainement beaucoup plus connu après cette étape, avec son passage à 18%. On sera à 18 km de l'arrivée, et d'ici là, eh bien, si le peloton n'a pas fait son retard, ça peut faire assez cher, hein, pour ces coureurs comme Pogacar, Roglic également, Alaphilippe, qui on le rappelle sont dans le peloton. Et puis en air de classique, c'est vrai aussi par la distance. Aujourd'hui, 249 km. C'est l'étape la plus longue du Tour depuis 21 ans.
Ouais, Nicolas Perronnet avec Jean-André Giannichini à la technique. Merci à vous deux. Septième étape du Tour entre Vierzon et Le Creusot. Et puis fin de la garde à vue pour la spectatrice soupçonnée d'être à l'origine samedi en Bretagne d'une chute massive dans le peloton de Tour de France. Du Tour de France, on s'en souvient, à cause de sa pancarte. Eh bien, elle a été présentée au parquet dans la matinée pour une comparution prévue le 14 octobre prochain. L'autre rendez-vous de la journée, c'est bien sûr l'Euro, le foot et le coup d'envoi des quarts de finale ce soir. 18h, l'Espagne affronte les Suisses, tombeur des Bleus. 21h, c'est l'affiche alléchante, prometteuse. Les Diables Rouges taillés pour le trophée face à la Squadra Azzurra décomplexée qui vise la demi-finale pour la première fois de son histoire en 9 ans. Belgique-Italie, le match se joue à Munich. Jérôme Val, il y a déjà de l'ambiance dans la ville.
Oui, un petit air de canon de Pachelbel sur la Marienplatz dans le centre-ville de Munich avant peut-être un coup de canon sur la pelouse ce soir à l'Allianz Arena. L'ambiance est plutôt calme pour l'instant. Il faut dire qu'ici à Munich, c'est l'une des plus petites jauges de cet Euro, 20% de la capacité du stade, à peu près 14 000 spectateurs, ce qui limite forcément les déplacements de supporters. Ils seront par exemple 1500 Belges environ, reconnaissables dans les rues piétonnes du centre-ville de Munich à leur unique rouge. Certains ont en main la fameuse fourche des Diables Rouges. Comme Solange, elle est accompagnée de Laurane et Xavier. Tous les trois viennent de Namur, dans les Ardennes belges.
On espère, on y croit vraiment.
Ça n'arrivera pas tous les ans, donc on a les joueurs qu'il faut, au moment qu'il faut, donc c'est maintenant ou jamais, il faut y aller. Une fois qu'on a été qualifié contre le Portugal, on n'a pas hésité, on a tout booké, en deux jours tout était fait, et voilà, c'était une affiche qu'on ne pouvait absolument pas louper.
Alors face à eux, les tifosis italiens se font pour l'instant plus discrets. J'en ai croisé quand même un tout à l'heure avec le drapeau vert, blanc, rouge sur les épaules, mais on devrait quand même les entendre un peu plus dans le stade ce soir pour ce qui est évidemment un sommet du football européen. Munich, Jérôme Val, France Inter.
Belgique-Italie, 21h ce soir. Enfin, c'est à celui qui aura la plus grosse fusée. Le milliardaire britannique Richard Branson fait cette annonce tonitruante. Lui aussi, il ira dans l'espace. Et dès le 11 juillet, hop, d'un coup, il grille la politesse à son grand rival, Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon, lui, s'est prévu seulement pour le 20 juillet. En plus, Richard Branson va retransmettre son vol en direct, en ligne, pour la première fois. La conquête de l'espace ou l'art de savoir comment prendre la lumière. Richard Place, c'est à Londres pour Inter.
Une bande-annonce digne d'un blockbuster hollywoodien. Le fondateur de Virgin a publié une vidéo cette nuit dans laquelle il se met en scène avec son équipage. Tous vêtus d'une combinaison bleue, chacun se présente au bout d'un couloir. Il y a de l'étoffe des héros et du Armageddon dans cette mise en scène. Et la star, bien sûr.
Astronaut 001, Richard Branson.
J'ai toujours été un rêveur. Ma mère m'a appris à ne jamais abandonner et à viser les étoiles.
Un avion baptisé Eve, du prénom de sa mère disparue justement, emmènera la fusée à une altitude de 15 000 mètres. Après s'être détaché, le vaisseau se propulsera à environ 90 km de la Terre. Les passagers se détacheront alors pour expérimenter l'apesanteur et observer la courbure de notre planète pendant quelques minutes. Puis ils reviendront se poser au Nouveau-Mexique. À bord de VSS Unity, deux pilotes, dont un ancien de la Royal Air Force, et quatre passagers, Richard Branson et trois de ses salariés. Au retour de ce 22e vol test, le premier avec un équipage complet, le milliardaire britannique promet une annonce pour permettre à plus de gens encore de devenir astronautes. Londres, Richard Place, France Inter.
Je crois vraiment que l'espace nous appartient à tous. Les mots signés de Richard Branson, nous, c'est le ciel qui nous appartient.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Bonjour Élodie Callac.
Bonjour à tous.
Un temps calme et des températures en hausse.
Oui, on a des éclaircies, mais malgré tout, on a un voile nuageux qui se met en place par l'ouest. Il va devenir épais sur une grande partie du pays, jusqu'à la Normandie, au bassin parisien et au massif central. Quelques pluies vont même finir par gagner la Bretagne en fin de journée. Les températures, elles sont estivales. Enfin, 21 degrés à Brest, à Cherbourg, 24 au Creusot, 26 degrés à Paris, Tours et Clermont-Ferrand, 29 à Bordeaux, jusqu'à 30 à Grenoble, 32 pour Toulouse et même 33 à Nîmes. On en profite, Hélène, puisque ça va se gâter pour ce week-end avec des averses, des orages et des températures en baisse.
Voilà, c'est bien retenu pour ce week-end. On va en profiter d'ici là. Merci, Élodie.
Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Magali Châtelu, à la Tour du Pin, en Isère, nous dit pourquoi.
J'ai besoin de voir très bien de près, parce que je suis infirmière libérale, donc j'ai besoin d'être précise dans ce que je fais sur certains actes. Et comme je circule aussi beaucoup en voiture, j'ai besoin d'avoir une bonne vision de loin aussi. Donc il me faut des bons verres progressifs, il ne faut pas que ça me tourne la tête. Ma demande personnelle, elle est là, c'est-à-dire il faut que je sois confortable. C'est ce que j'ai trouvé chez Optique 2000. Et puis mon opticien m'a aussi parlé de l'offre Objectif Zéro Dépense, et c'est vrai que c'est un plus.
José Rodriguez, l'opticien Optique 2000 de Madame Châtelu, à la Tour du Pin.
Ce qui est important pour moi, c'est d'aimer les clients et de m'occuper d'eux du mieux que je peux pour qu'ils aient un confort optimal dans leurs lunettes. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les dossiers.
Alors Madame Châtelu, contente d'Optique 2000?
Tout à fait. Et en plus, ils s'occupent de tout.
Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien.
France Inter M.
Le Festival international de journalisme organisé par le groupe Le Monde. Couture sur Garonne, petit village du Sud-Ouest, se transforme en une grande fête du journalisme à ciel ouvert. Débats, projections, rencontres, expositions, concerts, rejoignez-nous cet été pour vivre et partager 3 jours d'exception en famille ou entre amis. Programme, réservations et mesures sanitaires sur festivalinternationaldejournalisme.com. Le Festival international de journalisme, un événement France Inter.
13h31.
France Inter. Le 13-14, Hélène Roussel.
Avec nous en ligne depuis Aix-les-Bains, où elle est en stage de préparation, l'une des figures les plus emblématiques de l'athlétisme français, la lanceuse de disques, Mélina Robert-Michon. Bonjour et bienvenue sur France Inter.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes de votre précieux temps, car nous sommes maintenant quand même à 3 semaines des JO. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on attend vos questions au standard 01 45 24 7000. Mélina Robert-Michon, vous êtes, rappelons-le quand même, l'athlète française la plus titrée nationalement. Vous avez décroché votre 35e titre de championne de France le week-end dernier, 60m88. Vous êtes vice-championne olympique et mondiale, 20 ans de carrière, ce sont vos 6e JO. Mais quand même, cette année, des JO très particuliers sous Covid, jauge à 50%, pas plus de 10 000 spectateurs. Le Premier ministre japonais l'a encore répété hier soir. Il n'est pas impossible que ces JO s'ouvrent le 23 juillet sans aucun spectateur. Mélina Robert-Michon, vous y allez avec autant d'envie, autant d'enthousiasme, franchement?
Oui, on y va. Oui, parce que on a quand même là, ça fait déjà en général on attend depuis 4 ans. Là, ça fait 5 ans, donc on est dans les starts, on est prêt et forcément ça va être des jeux complètement différents de ce qu'on a l'habitude de vivre. Mais au moins on aura quand même ces jeux parce qu'on a craint quand même à un moment donné qu'ils soient complètement annulés. Et là, c'est vrai que ça aurait été vraiment le pire des scénarios possibles. Quoi.
Donc tant pis s'il n'y a pas de public, au moins vous allez pouvoir faire votre prestation, quoi.
Voilà, on va pouvoir déjà faire ce qu'on aime le plus faire, les compétitions, les jeux. Enfin voilà, c'est quand même la plus importante pour un athlète, c'est celle-là. Et c'est 4 ans de préparation, donc annuler un événement comme ça, voilà, ça remettait vraiment des carrières pratiquement en jeu.
Et oui, parce que cette interview, finalement, on aurait dû la faire il y a un an. Les JO repoussés, un an de Covid, de confinement. On garde en tête, moi, j'en garde une, en tout cas en tête, cette image de Renaud Lavillenie qui s'entraîne au saut à la perche dans son jardin. Vous, comment vous êtes-vous entraînée, Mélina Robert-Michon? Est-ce qu'il y a eu des temps morts? Est-ce que c'est une préparation physique, mais c'est aussi une préparation morale, on imagine?
Oui, alors mon jardin est pas assez grand pour lancer le disque, mais non, je me suis entretenue tout le temps. C'est vrai que quand on a vu un petit peu comment ça évoluait, j'avais récupéré du matériel au moins pour faire tout l'entretien physique, parce que on peut pas passer de s'entraîner 2 fois par jour à plus rien faire d'un coup. Ne serait-ce que moralement, ça aurait été compliqué. Et puis à ce moment-là, on savait pas encore que les jeux étaient annulés. Donc le but, c'était vraiment de continuer la préparation pour être prêt au moment où ça aurait lieu. Donc ça n'a pas toujours été simple de garder la motivation, hein, forcément, quand... Quand on est chez soi, c'est plus compliqué, mais voilà, ça faisait du bien. Et puis voilà, on gardait le cap parce qu'on savait pas à ce moment-là ce qu'il allait avoir derrière.
Faut être fort mentalement quand même. Les structures sportives n'ont pas pu fonctionner normalement non plus, les stades, les gymnases fermés. Est-ce que vous parlez de carrière, de certaines carrières menacées, est-ce que ça rebat les cartes entre les sportifs? Est-ce que quelque part ça remet tout le monde à niveau? Ou alors au contraire, est-ce que ça peut créer des inégalités vraiment encore plus fortes entre ceux qui ont pu effectivement s'entraîner et les autres?
Mais je pense qu'il y a eu des vraies différences selon les pays. Il y a des voilà, nous c'est vrai que sur le premier confinement vraiment tout a été fermé et on avait accès vraiment à rien du tout. Dans d'autres pays tout est resté ouvert. Dans certains pays comme la Chine, ils avaient carrément fermé les athlètes dans les centres d'entraînement, comme ça il y avait pas de souci. Donc c'est vraiment différent selon les pays. Donc je pense que ça va être une inconnue un petit peu en plus. En plus, il y a eu un petit peu moins de compétition, donc il y a des athlètes qu'on n'a pas trop vus, on ne sait pas trop où ils en sont. Et du coup, voilà, ça sera vraiment sur place. On va voir comment chacun a géré un petit peu tout ça.
Il va y avoir des surprises à ces JO. Mélina Robert-Michon, vous êtes athlète, mais aussi maman et quadra, comme la joueuse de tennis Serena Williams. Vous attaquez donc vos 6e JO. On dit que vous pensez aussi à Paris 2024. Vous qui allez fêter vos 42 ans dans 15 jours, je crois, vous repoussez Exactement. Toutes les limites. La barrière de l'âge, ça n'existe pas.
J'aurais jamais pensé vous dire ça. Il y a 20 ans, je pensais pas être encore là aujourd'hui. Mais finalement, voilà, je continue d'apprendre, de progresser et j'ai toujours l'envie. Je pense que c'est vraiment la clé. Le jour où ça sera une trop grosse contrainte de m'entraîner, je pense qu'il sera à ce moment-là temps d'arrêter. Mais voilà, en plus, c'est une motivation supplémentaire aussi, l'envie de montrer que il faut se défaire un peu de ce diktat de l'âge chez les sportifs. Passer 30 ans, c'est tout de suite... la fin du monde, alors que je pense qu'on a encore de belles choses à faire. Et du coup, voilà, je le prends comme une motivation supplémentaire pour montrer qu'à 40 ans encore, c'est possible.
Eh ben oui, vous en êtes la preuve vivante. Maman, je le disais, enceinte de votre deuxième, une petite fille qui vient d'avoir 3 ans, vous posez à l'époque avec votre ventre arrondi dans l'équipe MAG. Vous décrochez aussi un nouveau titre de championne de France 8 mois seulement après sa naissance. C'est quasi un acte militant, ça, Mélina Robert-Michon?
Oui, je pense que ça l'est devenu. C'est vrai que j'avais pas forcément conscience au début quand j'ai fait ça. J'ai fait les choix vraiment pour moi et j'ai découvert que le parcours pouvait être parfois compliqué. Les petites réflexions, les petites choses comme ça. Et ce que j'ai envie de montrer, c'est que j'ai pas forcément envie que toutes les femmes aient des enfants pendant leur carrière. Je veux juste que celles qui en ont la volonté puissent le faire parce que malheureusement, ça crée des fois des carrières qui se finissent pas comme elle devrait, parce que les athlètes sont frustrés, elles doivent faire le choix entre la carrière ou avoir un enfant, donc elles ont des fois pas la fin de carrière qu'elles veulent, et puis des fois certaines font le choix de la carrière, et puis quand elles veulent des enfants, après des fois c'est trop tard, donc voilà, c'est pour moi une athlète ou un athlète peut pas être bien dans sa vie sportive s'il est pas bien dans sa vie personnelle, donc ça fait partie de son équilibre et c'est l'envie de montrer aux entraîneurs, parce que souvent c'est des et aux dirigeants que c'est possible et que on peut revenir plus qu'à son niveau, on peut revenir encore meilleur.
Il y a encore trop de remarques déplacées, de sexisme, d'inégalité dans le traitement des femmes, notamment dans le sport.
Oui, forcément, parce que c'est, je vous dis, sur mes deux grossesses, la première, j'avais plus de 30 ans, je cumulais, quoi, plus de 30 ans, elle s'arrête pour faire un enfant, c'est sûr que sa carrière est finie.
C'est terminé.
Donc voilà, la deuxième, j'en avais presque 40, donc là, c'était encore pire. Cette fois, c'est sûr que c'est fini. Mais voilà, je pense qu'il faut des exemples, c'est le meilleur moyen de montrer que c'est possible, parce que les entraîneurs, voilà, ils ont ça devant les yeux, ils peuvent pas dire le contraire. Donc après, il faut être bien entouré, c'est pas facile. Je vais pas dire que c'est facile d'avoir un enfant pendant sa carrière, mais c'est possible. Mais si en plus de toute la difficulté habituelle, vous rajoutez un coach qui est pas conciliant ou qui dit, comme on l'a déjà vu, si tu veux un enfant, tu dégages, tu t'entraînes plus. Donc
ah oui, vous l'avez entendu, vous? Non, pas personnellement.
Moi, personnellement, non. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui m'ont accompagnée. Et ça, je pense que c'est la base de tout ça. C'est déjà pas facile à gérer. Si en plus, vous rajoutez des contraintes comme ça, vous êtes obligé de changer de structure d'entraîneur et tout ça, ça devient vraiment trop compliqué.
Obligé de lutter en plus contre le système. On doit souvent vous poser la question. Vous parliez de concilier une vie familiale avec une vie d'athlète de haut niveau. Remarquez qu'on ne pose jamais cette question aux athlètes hommes. Est-ce que c'est le signe que c'est toujours plus difficile quand même pour les femmes? Là, je parle de façon générale.
Forcément, un athlète peut être champion olympique et papa le lendemain ou même le jour même. C'est pas impossible. Pour une femme, ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai que des fois, j'en ai discuté avec d'autres athlètes qui ont des enfants et ils me disaient, des fois, j'aimerais qu'on me pose la question parce qu'il y a aussi des athlètes qui sont papas et pour eux aussi, des fois, c'est difficile les déplacements, les trucs. Mais c'est vrai que les questions, elles sont quand même souvent, vous partez, mais qui va s'occuper des enfants? Elles ont aussi un papa qui est très présent, qui s'en occupe très bien. Donc, c'est des petites choses comme ça encore qui sont là.
Est-ce que on imagine quand même que ce n'est pas si simple, même pour vous, je parle personnellement au quotidien, de petites filles, je parle bien sûr que le papa est présent, mais pour vous personnellement, partir loin, là, les JO, la bulle, pendant des semaines sans les voir, c'est des choses que vous appréhendez?
Oui, c'est du sport en dehors du sport, l'organisation, essayer de tout caler au mieux pour que moi j'ai besoin que tout soit calé, qu'elle soit bien et pour moi être bien. Donc c'est vrai que là c'est les vacances, donc j'ai la chance d'avoir, elles ont les cousins, les cousines, les papis, les mamies, donc ça passe finalement assez vite sur ces périodes-là. Et il faut que tout, on essaye de tout anticiper pour que je puisse partir l'esprit tranquille. Et après oui, forcément c'est des fois difficile, mais
on a vu là des témoignages de footballeurs là sur l'Euro de foot, c'est long et on peut, avec le Covid évidemment on ne peut pas emmener sa famille, enfin ça peut peser aussi beaucoup sur les performances et sur le mental.
Voilà, c'est pour ça que je suis partie en stage pas trop loin, pour qu'elle puisse venir tous les week-ends, qu'on puisse passer du temps ensemble. Voilà, on essaye de trouver les meilleurs compromis pour que chacun trouve son compte et que ce soit que tout le monde soit content. Donc, il faut chercher des solutions. Forcément, c'est un petit peu plus compliqué que pour l'organisation que quand on n'a pas d'enfant. Mais moi, c'est mon équilibre aussi et c'est aussi ma force. Je l'oublie pas non plus.
Mélina Robert-Michon, nous avons une question d'un internaute, d'un auditeur de France Inter, qui Jacques de Chambéry, qui nous dit « J'étais professeur d'éducation physique, maintenant je vois mes petits-enfants qui ne font plus vraiment d'athlétisme, ce qui est bien dommage, le plaisir de l'athlétisme s'est perdu. » Vous êtes d'accord avec lui ?
C'est vrai qu'avant collège, lycée, l'athlé c'était vraiment le sport de base. Maintenant il y a plein d'autres sports, mais du coup je trouve que c'est un petit peu dommage parce que finalement l'athlé ça vous sert pour tous les autres sports que vous allez faire derrière. Je vois des athlètes d'autres sports qui me disent j'ai commencé par l'athlé, ça m'a permis d'apprendre à courir, à me placer. Une fois qu'on sait courir, on peut faire tous les autres sports. Mais je pense que c'est même pas que l'athlé. Je pense que clairement, en France, on fait pas assez de sport, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée.
Peut-être à part le foot, quoi.
Je pense qu'il faut vraiment, et d'autant plus maintenant avec le Covid, il y a plein de structures de clubs qui ont été fermés. Et il faut vraiment qu'on redynamise tout ça pour que les enfants fassent, les jeunes fassent du sport parce que ils en ont besoin. C'est bon pour eux, pour leur santé, pour leur structuration, pour la mixité. Enfin voilà, pour moi, le sport est pas exploité à sa juste valeur en France.
Bon, ministre des Sports, la prochaine étape peut-être.
Non.
Dernière question quand même, puisque vous êtes candidate pour être porte-drapeau de la délégation française à Tokyo, vos 6e JO et peut-être porte-drapeau, qu'est-ce que ça représenterait pour vous ?
Là, c'est le graal ultime. C'est vrai que les Jeux Olympiques, pour un athlète, c'est déjà au-dessus de tout le reste. Des Jeux, on peut en faire plusieurs fois. Des médailles, on peut en avoir plusieurs. Porte-drapeau, c'est un athlète, alors deux depuis cette année, tous les 4 ans. Donc, c'est représenter la France. C'est emmener derrière soi toute l'équipe de France Olympique dans toute sa diversité et de ses disciplines et ses sports. C'est quelque chose, c'est une immense fierté.
Réponse bientôt en tout cas, puisque le Comité National Olympique doit trancher lundi. On vous souhaite bonne chance évidemment et puis
c'est
surtout bon JO Mélina Robert-Michon. Au revoir, bonne journée, bon
Merci,
entraînement.
Merci, bonne journée à tous.
Merci d'avoir été avec nous sur France Inter ce midi.
France Inter, le 13-14.
13h43, coup d'œil sur ce qui vous attend dans le dernier quart d'heure. Avec d'ici 10 minutes le vif de l'histoire, la nuit, je prends des trains à travers la plaine. Comme Bachung, on va prendre, ou plutôt reprendre le train de nuit. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour, reprise en effet du Paris-Nice et puis peut-être demain du Paris-Tarbes, serez-vous partante?
Mais bien sûr, à tout à l'heure Jean. Le feuilleton cette semaine, d'ici 5 minutes, la grande photographe Sabine Weiss, 97 ans, au micro d'Isabelle Pasquier. Dernier épisode aujourd'hui, l'heure de faire le tri dans des centaines de clichés ou comment retracer toute une carrière. Mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Hélène.
C'est la jeune chanteuse Oshi que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui. Elle vient de rééditer son deuxième album, Sommeil Levant, enrichi de 13 titres inédits. Album qu'elle a rebaptisé Étoile Flippante.
Étoile, comme son nom de scène, Oshi, ça signifie étoile en japonais. Elle a aujourd'hui 24 ans, Oshi. Et elle en avait 16 lorsqu'est sortie la chanson dont elle a souhaité me parler. C'est un titre du 12e album d'Indochine qui restera toujours son groupe français préféré.
Donc c'est College Boy du coup, et cette chanson elle parle d'homophobie, d'harcèlement de manière plus vague, mais le clip ça parle clairement d'homophobie. Et je me rappelle que j'ai entendu le titre et je me suis dit faut que je vois le clip. Parce que comment ils vont imaginer cette chanson, elle est hyper... violente, on a déjà les images en tête, mais ça reste un clip, et ça a pas manqué, je me rappelle, j'arrivais pas à le trouver, parce qu'il était diffusé que de nuit, il avait été interdit à diffusion à la journée, et c'était Xavier Dolan qui avait réalisé ce clip. Et en fait, j'ai vu le clip et je me suis dit, ah, quelle violence, mais qu'est-ce que ça résume bien tout, quoi.
Alors, si on décrit un peu le clip, c'est en effet un jeune garçon.
Complètement.
Qui se fait insulter, qui se fait frapper, qui se fait crucifier à la fin.
Crucifié à la fin, ouais, avec les policiers qui tirent sur lui, en fait, à la place de tirer sur les coupables. Moi, à cette époque, c'était un peu une époque où je me cherchais encore sur mon orientation sexuelle, sur mon genre, voilà, toutes les questions un peu de l'adolescence qui arrivent, quoi. Et ça a été aussi la période où je me suis fait agresser devant chez moi par quelqu'un qui m'a agressé même avant que moi-même je sache que j'étais lesbienne. Il m'a éclaté la tête par terre, quoi, devant chez mes parents. Il m'a laissé pour morte.
J'apprends d'ici que ma vie ne sera pas facile chez les gens. Je serai trop différent pour leur vie si tranquille, pour ces gens. I want to see you.
Donc forcément, il y avait une chanson qui m'accompagnait, et c'était celle-là. Tout ce qu'il dénonçait dans la chanson, je me le suis pris dans la gueule pour de vrai, quoi. Donc je me suis complètement reconnue dans ces images qui étaient exagérées forcément. Mais
les images de torture.
De torture, ouais, mais c'était ce que je vivais, c'était une torture intérieure.
J'aime pourtant tout.
Boy, une chanson qui raconte les violences subies par un jeune garçon homosexuel.
Un sujet sur lequel Oshi a d'ailleurs elle-même écrit une chanson, sortie sur son deuxième album, Amour Censure, chanson qu'elle a notamment interprétée lors des victoires de la musique l'année dernière. Des victoires, Indochine en a reçu 2, et d'autres récompenses aussi. Oshi doit beaucoup à ce groupe, peut-être même la vie.
Il y a eu très peu d'artistes dans lesquels j'ai pu me reconnaître quand j'étais ado. Déjà, il y avait peu d'artistes femmes lesbiennes assumées chanteuses en France que j'en connaissais pas. Et du coup, c'est vrai qu'Indochine, ça m'a aidé parce que tous mes questionnements, je trouvais mes réponses dans leurs chansons et notamment dans celle-là, en écoutant le texte, enfin cette émotion qui déborde, en fait, c'est tout ce que je ressentais. Comme la BO de ma vie à ce moment-là, quoi. Donc ça m'a fait du bien. C'est là qu'on se rend compte qu'une musique, ça peut vraiment sauver la vie de quelqu'un, en fait. Si à ce moment-là, j'avais peut-être pas entendu ce titre-là parce que j'avais pas pu mettre de mots ni de sons sur tout ce que je vivais, je me serais sentie très seule et j'aurais peut-être fait une connerie à l'époque, ouais, on sait pas. Elle m'a peut-être sauvé un peu cette musique quand même, ouais.
Quand je serai sur le moi, un petit peu moins fragile, ça ira. I want to see you.
Vous avez subi souvent des attaques lesbophobes ?
2 fois quand j'étais ado. Je me suis fait agresser 2 fois physiquement et après c'est des mots, notamment après les victoires de la musique, ça a été très compliqué.
Après le baiser que vous avez donné à une des danseuses.
Complètement, ça a été compliqué parce que je recevais des menaces de mort, mais ça a été compliqué pour moi, mais pour ma famille, parce qu'ils ont essayé de retrouver ma mère. Et je me dis, si j'embrasse une fille aux victoires de la musique et que je me prends des milliers de menaces de mort comme ça, mais c'est que c'est pas du tout ok en fait encore. En fait, à partir du moment où tu fais une chanson qui parle de ça, tu deviens une artiste engagée, entre guillemets. Et j'aime bien ce rôle-là, mais il est pas toujours facile à avoir, quoi. Parce que j'ai pas la science infuse sur tout, et que moi, tout ce que je veux, c'est de l'amour.
C'est ça aussi qu'elle dit, cette chanson d'Indochine, finalement.
Complètement. Ouais. Je pense que c'est ma chanson préférée.
College Boy du groupe Indochine que nous faisait écouter la chanteuse Oshi, Frédéric.
Qui veut de l'amour. Nous aussi, on veut de l'amour. Oshi qui vient donc de sortir Étoile Flippante, une réédition enrichie de son deuxième album.
Et merci Frédéric Pommier pour la chanson, le témoignage et l'amour. Cette semaine, pour notre feuilleton, nous entrons chez Sabine Weiss, près de la porte de Saint-Cloud. Sabine Weiss, 97 ans, immense photographe, star des prochaines rencontres d'Arles, mode, pub, reportage dans le monde entier, portrait d'enfant ou d'artiste, rien ne lui aura échappé. Elle nous a raconté notamment comment elle avait travaillé dans l'atelier de Giacometti. Aujourd'hui, dernier épisode, chez elle toujours, et avec elle, on fait le tri. Il faut classer son œuvre monumentale, car Sabine Weiss veut faire donation de ses milliers de clichés au musée de l'Élysée à Lausanne.
J'ai vécu presque 100 ans et j'ai quand même des documents qui sont très intéressants, enfin, un témoignage de chaque époque qui est passionnante sur toutes les classes de la société. Moi, j'aime bien mon regard parce qu'il a documenté quand même beaucoup de choses, petites choses intéressantes.
Et là, à l'occasion de ces archives que vous allez transmettre, donner au musée de Lausanne, ça vous a permis de revoir des centaines de photos.
De temps en temps, je dis, tiens, dans cette pile-là, qu'est-ce qu'il y a? Et je regarde des choses et je m'étonne moi-même.
Quel est votre sentiment quand vous ouvrez vos armoires, vos tiroirs et que vous plongez dans des archives que vous n'avez pas vues depuis certaines 70 ans?
Ça me plaît beaucoup, je suis très étonnée. Je suis très prétentieuse, vous voyez. J'ai pas l'air, vous voyez. Je me pose pas tellement en avant, généralement. Mais là, je suis très prétentieuse. J'aime beaucoup mon travail. Je trouve que j'ai bien travaillé. Parce que ce qui reste, c'est pas les photographies d'une usine, d'un lieu d'architecture. C'est pas ça. C'est des petites choses humaines que je redécouvre et qui me touchent. Un homme qui marche et où ça donne une photo intéressante. Les choses fugitives de la vie. Alors ça c'est la place du palais de Chaillot, là au fond. Ça, c'est le pont qui est devant la tour Eiffel. Quel document merveilleux, parce qu'il y a tant de choses qui ne sont plus là. Très amusant. Alors qu'est-ce qu'on trouve là, par hasard? Des enfants qui jouent. C'est très joli. Il y a un monsieur qui passe derrière, les mains dans le dos, qui se fiche totalement de ce qui se passe autour de lui.
Très très belle photo de cet homme seul, le long de la Seine.
C'est un document qui est rien et qui est tout, parce qu'il est assis sur un petit pliant, il a un chapeau, la barbe, des lunettes, et il lit, il est assis sur les quais, tranquillement en train de lire. Avec une onde qui est pas mal, oui. Ça, c'est quand même des documents. Ça m'amuse beaucoup de voir ce document. Ce sont des hommes qui descendent d'une armoire, d'une fenêtre, sur une échelle. L'échelle est très haute. Elle doit faire au moins 10 mètres. Et il soutient l'armoire par sa tête.
On pourrait croire qu'il y a une mise en scène. Or, pas du tout, vous l'avez saisi sur le vif.
Voilà, oui, évidemment. C'est un bon document, parce que aller chercher une scène pareille aujourd'hui, ça n'existe plus.
Vous êtes nostalgique de cette époque, ou c'est un mot qui ne vous ressemble pas du tout?
Non, pas nostalgique, parce que les choses sont différentes.
Là, vous préparez pour cet été une grande exposition aux rencontres de la photo d'Arles. Après, c'est cap sur une grande exposition pour vos 100 ans.
Alors, mes 100 ans, c'est demain, mais c'est dans 3 ans. Il peut se passer pas mal de choses.
Ça vous donne le vertige, non? 100 ans.
Ça m'amuse. Ça m'amuserait de faire mes 100 ans.
Sabine Weiss, est-ce que la photo vous a rendue heureuse?
La photographie, oui. Parce que finalement, elle est un témoignage de ce qui se passe dans la vie et ce qui se passe autour de soi. Mais j'ai fait des choses tellement variées qu'il y a beaucoup de circonstances qui ne m'ont pas touché. Mais il y en a beaucoup qui m'ont beaucoup touché. Et c'est un métier quand même formidable, parce qu'on peut approcher vraiment les gens. Je suis peut-être une très sentimentale dans le fond.
Sabine Weiss, un regard et toute une histoire. Là aussi, on parlait d'amour, finalement. Portrait de cet immense photographe en 5 épisodes, signé Isabelle Pasquier. Un feuilleton que vous retrouvez en intégralité, bien sûr, sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
13h54, c'est votre heure, Jean Lebrun, et ceux qui vous aiment prendront le train de nuit, le grand retour, jugé complètement obsolète il y a peu, sous le mandat de l'ancien président de la SNCF, on s'en souvient, Guillaume Pépi. Voilà que l'État impose son retour sur les rails. On a même vu Jean Castex faire le premier voyage au bout de la nuit sur un Paris-Nice, qui affiche déjà complet cet été sur Oui SNCF.
Ben, si c'est complet, il vous restera à écouter Bachoum, que vous citiez, Hélène, ou la musique de Darius Milhaud, qui accompagnait Le Train Bleu, le livret du ballet écrit par Cocteau, ou à lire Valérie Larbaud, au train de luxe, et l'angoissante musique qui bruit le long de tes couloirs de cuir doré, tandis que derrière les portes laquées, au loquet de cuivre lourd, dorment les millionnaires. De toute façon, une fois que vous aurez arraché une place sur le Paris-Nice nouveau, ne vous attendez pas à retrouver cette atmosphère que goûtait tant Chanel quand elle allait rejoindre sa villa de Roquebrune. C'est bien pour cela que Jean Castex a souhaité emprunter l'avatar 2021 du train bleu. C'est parce que, je le cite, il est, lui, démocratique, écologique. Et pour assouvir vos éventuels désirs de luxe, je ne parle pas d'amour, il faudra attendre que les opérateurs privés reprennent l'initiative. L'Italien Tello avait créé il y a 10 ans un Paris-Venise qui vous mettait, Hélène, au petit matin à la gare Santa Lucia. Juste il a cessé de fonctionner, vous vous souvenez, hein. Il a cessé de fonctionner avec le premier confinement, mais la société fait savoir qu'il ne reprendra pas tout de suite. Elle fait cependant miroiter pour 2024, notez la date, une éventuelle reprise sous forme d'hôtel 5 étoiles sur rail. Acceptons-en l'augure.
Entretenir la nostalgie, Jean, ce n'est jamais la bonne méthode pour faire de l'histoire, même quand il s'agit des trains de nuit.
Ni pour l'amour. Notre imagination s'est fixée sur l'Orient Express et ses semblables. En fait, il n'occupe que peu de segments et assez bref dans l'histoire du rail. L'Orient Express ne commence qu'en 1883. Il est interrompu par les deux guerres, dévalué par la guerre froide. Il n'était plus que l'ombre de lui-même quand Athènes et Istanbul ont renoncé à leur rôle de terminus en 1977. Les premiers trains de nuit sont beaucoup plus anciens et ne se souciaient ni de l'agrément ni de l'ornement. Ils sont nombreux dès le milieu du 19e. Il n'y a d'ailleurs pas lieu de s'en étonner parce que l'élément déterminant dans le train, figurez-vous, c'est le chemin de fer. On n'allait pas laisser inutiliser le rail la nuit. Il fallait évidemment qu'il continue de transporter à toute heure des clients, des marchandises, du courrier, des soldats aussi, permissionnaires ou non. Un ouvrage de Georges Ribeil vient de paraître consacré au train de nuit, aux éditions bien nommées « La vie du rail ». Le premier chapitre décrit longuement l'équipement recommandé aux voyageurs nocturnes. Appuie-tête, accoudoir, repose-bras et autres prothèses, parce que longtemps, il ne fut pas question de voyager la nuit autrement qu'assis. Il a fallu des décennies pour explorer la possibilité de la position couchée, avec des étapes transitoires, coupé-lit, fauteuil-lit, et enfin couchette à la fin du 19e et seulement dans quelques voitures privilégiées de première classe. À y bien réfléchir, Hélène, la position couchée dans un train, est-ce que c'est pas un peu étrange? En 1888, le romancier Huysmans se rend à Cologne avec la compagnie des wagons-lits. Eh ben, il ne parvient pas à trouver le sommeil. Il décrit chaque aiguillage, je rebondis, je m'agrippe d'un bras au matelas, j'abrite de l'autre mon crâne qui frappe à la cloison. Quand je me casse en chien de fusil, mes genoux frappent mes talons, devenus fous. Ah! Que je souhaite, conclut-il, ne plus jamais subir l'indigent confort et le gala de Kaamelott du wagon-lit.
On va donc pouvoir retrouver dans certains trains cette joyeuse position verticale. En revanche, d'autres positions sont-elles toujours interdites?
Mais non, la position couchée, on va la retrouver. Mais c'est la position verticale, Hélène, réfléchissez-y bien.
Horizontale.
Qui devient difficile. On se tient beaucoup moins souvent debout dans les trains que lorsqu'il y avait un couloir latéral sur lequel donnaient les compartiments fermés. Et puis, il y a une position qui nous est en effet interdite, celle qui consistait à se pencher à travers la fenêtre. Exemple, un cliché fameux, Freud et sa tribu contraints de quitter Vienne par les nazis et arrivant à Paris, saluent leurs admirateurs et reçoivent des bouquets de fleurs par la fenêtre. Que dirait Freud d'ailleurs d'une disposition à laquelle songe la SNCF, des compartiments spéciaux seraient réservés aux femmes dans les trains de nuit? Le freudisme a partie liée avec le train. Le maître de Vienne recommandait de parler au psychanalyste comme si on lui racontait le paysage depuis la fenêtre du compartiment. Et quant au train de nuit, que de rêves il a suscité. Baisse un peu l'abat-jour, veux-tu ? Et laissons-nous aller à la glissade si douce du wagon. Bon, la nostalgie est mauvaise conseillère.
Il paraît. Jean Lebrun, merci à vous. 13h59, bonjour Mathieu Vidard.
Oui, bonjour.
Dans un instant, la Terre au carré, on parle de...
climat, de sélacanthes et de plantes qui font de la musique.
Ouh là là, c'est large programme. Ouais. Tout cela, à très vite Mathieu, juste après le flash.